La Galatrice, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'air de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Abondamment. Amen.
Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers auditeurs, où que vous soyez, recevez tous nos sincères et chaleureuses salutations. Dans le Tout-Puissant et merveilleux nom du Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bel et bien à l'écoute de votre très chère émission, l'heure de la vérité. Oui, recevez tous, où que vous soyez, nos sincères et chaleureuses salutations. Oui, comme je le disais tantôt, c'est bel et bien notre très chère émission, l'heure de la vérité. L'heure de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans compromis et sans concession. Si vous aimez la vérité qui est prêchée dans cette émission, l'heure de la vérité, tant mieux. Si vous n'aimez pas, tant pis. Le plus important, c'est l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour moi et l'amour que Dieu a pour lui et surtout pour sa vérité biblique. Et pour vous faire comprendre que nous ne sommes pas là pour nous amuser, nous prenons vraiment cet engagement au sérieux, à savoir vous prêcher la vérité biblique. Même si nous savons que la vérité biblique ne plaît pas toujours à tout le monde, oui, la vérité n'a pas pour vocation de plaire à tous les hommes. La vérité biblique n'a pas pour vocation de faire l'unanimité. Mais la vérité biblique a pour vocation d'affranchir les hommes, de rendre les hommes libres. Ce que vous deviez savoir. Et comme je le disais tantôt, pour vous faire comprendre que nous ne sommes pas là pour nous amuser, nous allons nous battre autant que le Seigneur nous accordera grâce afin que la vérité biblique soit proclamée même jusqu'aux extrémités de la terre. Très chers auditeurs, très chères auditrices, la seule chose qui vous reste à faire, c'est d'ouvrir grandement vos cœurs et vos oreilles. Et j'espère que par la grâce de Dieu, l'année commence bien pour vous. De toutes les façons, quant à moi, Le Seigneur m'a encore béni en me donnant une merveilleuse petite fille qui s'appelle Merveille Divine. Et je ne peux qu'être être reconnaissant au Seigneur qui, une fois de plus, m'a béni avec ce joli bébé. Et aussi, en passant, c'est pour vous dire que si vous qui m'écoutez, si vous ne voulez pas vous engager à accepter le Seigneur et à le servir, si vous ne voulez pas croire au Seigneur et le servir, de toutes les façons, quant à moi, même s'il faut que je fasse mes propres enfants pour les former afin qu'ils deviennent des futurs serviteurs et servantes du Seigneur Jésus-Christ, je le ferai avec joie. Oui, je le ferai avec joie. Savoir faire mes propres enfants et les conduire sur le chemin du Seigneur, sur le chemin de la vérité biblique. Ici, au studio, il y a quelqu'un qui a fait un très long voyage, juste pour venir voir comment ça se passe. Et il est juste à côté de moi. Et je, sans plus tarder, je vais lui passer la parole. Bonsoir, mon frère.
Bonsoir, Bénévi.
Comment tu t'appelles, Jean? Oui, je disais tantôt que j'ai à côté de moi quelqu'un qui vient de très loin. Il a tenu à être dans ce studio pour voir comment ça se passe. Et il est juste tout près de moi. Et comme je le disais tantôt, je vais lui donner l'occasion de se présenter personnellement. Et déjà, je lui souhaitais la bienvenue dans cette studio et à cette émission L'aide de la vérité. Bonsoir, mon frère.
Bonsoir, bien-aimé.
Et comment tu t'appelles?
Je m'appelle Nankep Chujo Yannick Emile. Particulièrement, je veux qu'on m'appelle frère parce que le frère, c'est le nom que Christ nous a donné. C'est pourquoi j'aimerais toujours qu'on m'appelle frère.
Oui, tu es un frère en Christ.
Je suis un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aime toujours qu'on m'appelle frère. Parce que le mot frère là me donne, ça me rappelle beaucoup de choses.
Ok, et tu es dans quelle religion?
Moi, je suis dans la religion du Seigneur Jésus-Christ.
Comment ça? Je n'arrive pas toujours à comprendre. Il y a tellement de religions dans ce monde, mais tu es précisément dans quelle religion?
Il y a précisément plein de religions, mais toutes ces religions-là ne sauvent pas et toutes ces religions-là ne viennent même pas de Dieu. Donc je suis dans l'église où Christ approuve vraiment sa présence.
Donc tu es tout simplement un frère en Christ, mais tu n'es pas dans une religion.
Je ne suis pas dans une religion. Car une religion n'est pas morte pour moi à la croix. C'est Christ qui est mort pour moi à la croix. Et il a laissé une église qui a été établie par les apôtres. Et je veux suivre que cette église.
Et cette église, c'est quelle église? Ça se trouve où? Quelle est cette église?
Bon, le Seigneur Jésus-Christ dit, là où deux croix sont assemblées en son nom, il est au milieu d'eux. Donc, que là où on se rassemble, c'est tout simplement au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Ah donc si je vais comprendre bien, tu dis que il n'y a aucune religion qui sauve et toi tu as cru tout simplement au Seigneur Jésus et tu crois sincèrement que ce n'est pas une religion qui sauve, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui sauve.
Amen, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui sauve.
Ah ok, maintenant je comprends très bien ta pensée et selon toi, là où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur Jésus, Jésus est là et c'est ça l'église.
Amen.
Ok, que le Seigneur te bénisse mon frère. Tu es la bienvenue. Et très chers auditeurs, très chères auditrices, avant d'entrer tout droit dans la parole du Seigneur, je vous invite à garder tout simplement l'écoute en écoutant cette ponctuation musicale.
Servirons l'éternel. serviront, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au milieu des problèmes, comme au jour de beau temps, moi et ce que j'aime, ma femme et mes enfants, serviront le Seigneur qui nous a franchis. Tout notre cœur, tout au long.
Oui, vous écoutez toujours l'heure de la vérité. L'heure de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans concession, sans détour, sans compromis. Et si vous ne voulez pas suivre le Seigneur, le servir, quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, moi et mes enfants. D'ailleurs, je les bénis dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus et que, par la grâce de Dieu, ils deviennent tous des puissants et des puissantes serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Très chers auditeurs, très chers auditrices, je tiens à ce que vous sachiez que nous sommes toujours dans la série des enseignements, particulièrement la fin des temps et les fausses doctrines. Et pour vous rafraîchir un peu la mémoire, nous avons vu beaucoup de choses. Après, nous avons ouvert une petite parenthèse. Oui, nouvel an oblige, nous allons retourner à nos moutons, comme on dit vulgairement au quartier. Oui, nous allons continuer à nous entretenir toujours sur la fin des temps et les fausses doctrines. Nous avons déjà vu beaucoup de choses concernant les fausses doctrines. C'est que les gens enseignent, pratiquent autour de nous, parfois même dans les milieux religieux, et qui, malheureusement, n'ont pas toujours des fondements bibliques. Tenez par exemple, il n'y a pas longtemps, juste quelques jours même, à peine, je vais dire, une jeune sœur venait me dire qu'elle est persécutée tout simplement parce qu'elle s'est fait baptiser. Et un grand pasteur, docteur en théologie, lui a fait savoir qu'elle ne devait plus se baptiser parce qu'elle s'était baptisée lorsqu'elle était bébé. Et lorsque cette jeune sœur lui a dit qu'elle n'était pas du tout consciente lorsqu'elle le faisait, parce que le baptême veut dire tout simplement l'engagement d'une bonne conscience, selon ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Et à ce grand pasteur, docteur en théologie, il dit que lorsqu'on baptise les bébés, c'est pour les protéger, particulièrement contre les sorciers. C'est même monstrueux d'avoir ce genre de raisonnement, à savoir qu'on baptise les bébés pour les protéger contre les sorciers. C'est quel verset biblique qui atteste ces choses? Nous voyons vraiment, chers auditeurs, chers auditrices, que les hommes racontent du n'importe quoi, et parfois les gens avalent bêtement n'importe quoi, n'importe comment, tout simplement parce que eux-mêmes, ils ne prennent pas la peine d'examiner les Saintes Écritures. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous invite toujours à avoir un stylo et une feuille pour noter tous les versets bibliques qui sont dits à partir d'ici, afin d'être sûr que ce que j'enseigne est vraiment conforme à ce qui est réellement écrit. Parce que le plus important, c'est que votre foi soit fondée uniquement sur la vérité biblique et non sur la sagesse des hommes avec leurs doctrines, leurs dogmes et leurs théologies. Très chers auditeurs, très chers auditrices, la dernière fois, nous étions en train de voir l'Église, selon la Bible, les systèmes religieux, les dénominations et autres. Et dans Genèse 11, nous avons suffisamment médité là-dessus l'origine des noms des églises ou des systèmes religieux qui existaient sur cette terre viennent de Babylone ou Babel dans Genèse chapitre 11 où les hommes ont dit donnons-nous un nom, faisons-nous un nom. C'est à partir de là et aujourd'hui les gens se donnent un nom et chaque système religieux a son nom alors que l'église du Seigneur Jésus-Christ a déjà son nom. À savoir l'église du Seigneur Jésus-Christ en réalité n'a pas besoin de lui donner un autre nom que le nom qu'elle a déjà. Et nous avons également vu, je suis juste en train de faire un peu de rappel concernant particulièrement les dernières émissions, parce que je ne peux plus rentrer en détail dans tout ce qui a été déjà dit. Nous avons vu les dîmes, les offrandes à la lumière des Saintes Écritures. Beaucoup de choses ont été dites. Et nous avons vu comment les offrandes devaient être gérées, même dans l'église, que ce n'était pas juste pour le pasteur ou pour une catégorie de personnes. C'était les saints, particulièrement les saints dans les besoins. Eux aussi, ils étaient vraiment ceux-là qui bénéficiaient des offrandes qui étaient données dans les églises. J'avais lu suffisamment de versets qui confirmaient cela. Et nous avons vu que la dîme ne devait plus être réclamée parce que c'était un enseignement de la loi juive, la loi sociale juive. Le chrétien étant racheté appartient à Christ avec tout ce qu'il a. Il doit désormais donner des dons volontaires, surtout avec joie. Et nous avons suffisamment lu les versets aussi dans ce sens. Et nous avons également vu que beaucoup d'assemblées ou églises, en fait, ne sont différentes en rien des boutiques ou dans des entreprises commerciales autour de nous. La manière dont on parle tellement de l'argent, où on en a que les gens, en réalité, on a transformé les lieux de rassemblement des chrétiens, les lieux de prière, en un lieu de escroquerie, d'arnaque, de braquage même, à la limite. Oui, parce que on utilise certains versets bibliques pour braquer les chrétiens en les faisant sortir parfois de l'argent dans les poches, même lorsqu'ils en ont pas du tout besoin, on les dépouille carrément. Parfois même la grand-mère qui a de la peine à acheter son litre d'huile et son litre de pétrole, on essaie de l'arnaquer même en quelque sorte parce que l'obliger à donner, alors qu'elle-même, elle a de la peine à joindre les deux bouts, en réalité c'est de l'escroquerie et même du braquage. L'église du Seigneur Jésus-Christ est beaucoup plus là pour amener les gens à avoir une foi sincère au Seigneur. Et surtout, l'église du Seigneur Jésus-Christ est là pour amener les gens, les âmes au paradis, et non pour gagner de l'argent, ou bien arnaquer les gens, ou bien dépouiller matériellement et financièrement les gens. Et les témoignages abondent des gens qui, parfois même, ont des sommes qu'ils vont donner à l'église chaque mois, des sommes qui sont carrément exigées. Et dans certaines églises, pour être sûr que chacun a vraiment donné sa dîme ou cette somme, ils ont même des cahiers, oui, ou des bulletins, où tout cela est noté pour être sûr que tout le monde a donné sans manquer. Non, nous ne voyons pas une telle chose dans la parole du Seigneur. Et lorsque moi particulièrement je vois ces choses, je ne peux pas ne pas parler parce que ça n'a absolument rien à voir avec ce qui est écrit dans la sainte parole du Seigneur. Beaucoup vont jusqu'à prendre même de l'argent aux gens pour les baptiser, pour faire les mariages, pour célébrer les messes, et tout ces... alors que le Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, le verset 8, a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, priez pour les malades, ressuscitez même les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons gratuitement. C'était l'ordre formel du Seigneur Jésus. Alors comment se fait-il alors que aujourd'hui les gens utilisent la Bible et la parole de Dieu pour dépouiller financièrement et matériellement les gens? C'est tout simplement pour dire que, en vérité, beaucoup ne sont plus là vraiment pour le Seigneur. Beaucoup sont là beaucoup plus pour les ventres et pour les poches. C'est une vérité que l'on accepte ou pas. D'ailleurs, c'est pour vous inviter, vous qui êtes dans ce genre de milieu, lorsque vous allez dans une assemblée chrétienne, c'est pour écouter la bonne parole du Seigneur Jésus, c'est pour entrer en communion avec ceux qui craignent le Seigneur. Mais si vous vous retrouvez dans un milieu dit chrétien, où on ne parle que de l'argent, où tout tourne autour de l'argent, où on invente toutes sortes d'offrandes pour faire sortir de l'argent de vos poches, en réalité, pour vous dire vrai, vous n'avez rien à faire dans ce genre de milieu. Vous devez sortir pour sauver votre âme. Parce que Jésus a dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman, ou Dieu et l'argent. Très chers auditeurs, très chères auditrices, et nous allons continuer. Très chers auditeurs, très chères auditrices, je vais ouvrir une petite parenthèse avant de continuer en vous parlant également de l'écuménisme. C'est très très important. L'écuménisme. Beaucoup ont déjà entendu parler de ce mot, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est. Mais puisque je suis là pour partager les vérités bibliques, même les vérités cachées, les vérités profondes avec vous, je vais vous faire part en bref de ce que c'est que l'écuménisme. Oui, je rappelle que j'ai demandé des SMS et non des appels. Oui, vos SMS et non les appels, s'il vous plaît. Oui, je disais tantôt que je vais ouvrir une petite parenthèse en vous parlant de l'écuménisme. Qu'est-ce que c'est que l'écuménisme? L'écuménisme, c'est un projet venant du monde des ténèbres qui a pour mission, comprenez très bien, qui a pour mission de réunir toutes les religions du monde, chrétiennes et non chrétiennes, en une seule entité. Lorsqu'on juge superficiellement ces concepts, il paraît excellent, parfait. Mais la vérité, c'est que le diable veut réunir tous les hommes dans un seul système religieux sur lequel il va régner. Et nous pouvons retrouver, par exemple, les traces de cela dans Apocalypse. Oui, Apocalypse chapitre 13. Oui, Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 16 au verset 18. Si mon frère qui est tout près de moi est à la page, il peut lire pour nous tous. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 16 au verset 18.
Apocalypse 13, à partir du verset 16 au verset 18. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666.
Amen. Dans cette portion des Écritures, le Seigneur dit bien que la personne qui a l'intelligence calcule. Donc, il faut de l'intelligence pour comprendre ce qui est dit dans cette portion des Saintes Écritures. La Bible nous dit clairement qu'à un moment donné, personne ne pourra ni acheter ni vendre, à moins d'avoir la marque de la bête. La marque de la bête, si nous pouvons voir cela spirituellement, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Aujourd'hui, on a toujours l'habitude de dire, mais quel est le nom de ta religion? Si tu n'as pas de religion, comment est-ce que tu peux servir Dieu? Comment est-ce qu'on peut être un chrétien sans appartenir à un système religieux? Non. Et on cherche à tout prix à amener quelqu'un dans une religion. Comme si c'est Dieu qui avait créé cette religion. C'est une façon d'imposer une marque à quelqu'un. La marque de la bête. Parce que Jésus n'a jamais dit que pour être chrétien, il faut être dans une religion. Surtout même une religion reconnue officiellement. Oui, c'est ce qu'il faut savoir. Il y a des exemples dans la parole de Dieu, des gens qui étaient des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, pas parce qu'ils étaient dans une religion, pas parce qu'ils étaient dans une dénomination. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, Job, qui était quelqu'un qui craignait vraiment Dieu et que Dieu a rendu témoignage de sa foi. Il était dans de quelle religion? Il n'avait pas de religion. Pourtant, c'était quelqu'un qui servait Dieu, qui avait la crainte de Dieu. Et Dieu lui-même s'est vanté devant le diable en disant, « As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne qui est intègre sur la terre comme lui. » En réalité, lorsqu'on commence déjà à dire qu'il faut à tout prix avoir une religion pour être reconnu comme étant enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, c'est une marque qu'on est en train d'imposer aux hommes, même si les hommes ne le savent pas. D'ailleurs, au fur et à mesure que nous allons avancer dans la fin de temps, à un moment donné, les choses seront tellement institutionnalisées au point où tous les vrais serviteurs de Dieu qui ne seront pas abonnés à des systèmes religieux officiels seront bannis ou pas du tout considérés comme étant des vrais serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs, d'ici quelques temps, vous allez remarquer cela. Et les rumeurs courent déjà qu'on va fermer beaucoup d'églises, tout simplement parce qu'elles n'ont pas d'autorisation. Quelque part, c'est très très bien même. Oui, parce que beaucoup ont ouvert des boutiques et qu'ils appellent église. Tout cela n'a rien à voir avec l'église. C'est très très bien, parce qu'en fermant cela, les vrais enfants de Dieu vont comprendre qu'en réalité, ils n'ont pas besoin de l'autorisation pour servir vraiment le Seigneur. Par contre, si quelqu'un crée un système religieux ou une organisation quelconque, il doit déclarer, il doit avoir une autorisation. Mais l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas une organisation. Oui, l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas une organisation. Ce qui est aussi un peu dangereux, c'est que lorsqu'on va commencer à fermer ces églises, beaucoup seront prêts à tout faire pour être reconnus. Mais ce n'est pas parce qu'on est reconnu que ça veut dire forcément que l'on sert Dieu. Beaucoup de sectes ont des autorisations, sont reconnues officiellement. Mais pourtant, ce sont des sectes sataniques, on les connaît. Ouvrez grandement vos oreilles pour comprendre tout cela. On doit tout reconnaître un vrai serviteur de Dieu, tout simplement par son service, par son travail, par sa vie. On doit également reconnaître une vraie assemblée chrétienne, tout simplement par l'évangile qu'elle prêche et par la parole de Dieu qu'elle pratique. Et rien de plus. Mais si une église est là seulement pour faire le désordre, le bruit et chercher de l'argent, peu importe, que ce soit officiel ou pas, ça n'a absolument rien à voir avec la parole de Dieu. Et j'étais en train de vous parler de l'écuménisme. C'est-à-dire ce concept qui consiste à réunir toutes les religions du monde, que ces religions soient chrétiennes ou non chrétiennes. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble, à moins qu'ils soient d'accord. Oui, ce que nous pouvons lire dans Amos. Oui, pendant que mon frère va chercher le livre d'Amos pour lire ce verset qui dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble à moins qu'ils ne soient d'accord. Comment est-ce que les hommes peuvent se réunir en disant qu'ils sont un alors qu'ils ne sont pas d'accord? Je prends un exemple en passant. Moi, je suis un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai comme Seigneur et Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut m'imposer d'être un avec quelqu'un qui a un Dieu qui n'a rien à voir avec mon Dieu? Par exemple, il y a les gens que leur Dieu c'est Allah, les prophètes c'est Mahomet. C'est normal, chacun est libre de croire à n'importe quel Dieu, à n'importe quel prophète. Chacun est libre, Dieu a donné cette liberté aux hommes. Mais, aller jusqu'à me dire que moi j'ai le même Dieu que celui-là qui dit que son Dieu c'est Allah et que son prophète c'est Mahomet, c'est faux. Mon Dieu c'est Jésus, mon sauveur c'est Jésus. Ça c'est un exemple que je prends. Pour dire que si je suis conscient que mon sauveur, mon Seigneur c'est Jésus Christ et qu'une autre personne a pour sauveur Allah ou son sauveur Mahomet ou bien son prophète Mahomet ou son Dieu Allah et que j'ai dit que je suis un envers lui, c'est un mensonge du diable. Parce que nous n'avons pas forcément le même Dieu, ni le même prophète. Comprenez très bien. Même certaines religions que l'on dit être les premières religions, lorsqu'on creuse, on se rend compte que ces religions ne prêchent pas forcément la même chose. Oui, je veux prendre un exemple. Les protestants ne prient pas Marie. C'est un exemple le plus palpant. Alors, si eux, ils ne prient pas Marie, comment est-ce qu'ils peuvent devenir un avec ceux-là qui prient Marie? C'est de la comédie. De la pure comédie. Très chers auditeurs, très chers auditeurs, je suis là pour essayer d'ouvrir vos yeux pour vous dire que vous ne pouvez vraiment vous joindre à quelqu'un en ce qui concerne Dieu que si vous priez de la même façon, vous adorez de la même façon et que vous êtes sûr que le Dieu que vous priez, c'est vraiment le même Dieu et que la parole de Dieu que vous pratiquez, c'est exactement la même parole. Sinon, si vous dites que vous allez devenir un, c'est que ce n'est plus Dieu que vous servez, c'est autre chose. Soit vos intérêts personnels, soit le diable. Oui, si mon frère a cette portion de Sainte Écriture, Amos chapitre 3, le verset 3, il peut lire pour nous tous.
Amos 3, le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés?
Voilà, la parole de Dieu est claire. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Pas du tout. Pour que deux personnes marchent ensemble, il faut qu'ils soient d'abord d'accord sur beaucoup de choses. De la même manière, les gens ne peuvent pas se lever un bon matin et dire qu'ils vont faire l'écuménisme. On voit chaque fois à la télé des plateaux où on réunit les prêtres, les pasteurs, les imams, tout ça. On dit que c'est une messe écuménique. Mais quand on essaie de voir de près, en creusant, on se rend compte qu'en réalité, ils ne prient pas forcément de la même façon. ils n'ont pas forcément les mêmes doctrines, ils n'ont pas forcément la même conception des choses. Mais pourtant, ils sont quand même ensemble. Si les gens décident de servir de cette façon, tant mieux. Mais, dit que c'est le même Dieu, je doute fort. Parce que le même Dieu n'est pas divisé. Le même Dieu n'a pas plusieurs paroles. Le même Dieu n'a qu'une seule parole, qu'une seule vérité. Jésus lui a dit, lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est le chemin, c'est Jésus qui est la vérité, c'est Jésus qui est la vie. Si c'est autour de Jésus que nous nous réunissons, gloire à son nom. Mais si c'est en dehors de Jésus que nous nous réunissons, ce n'est plus du tout pour Dieu. Ce n'est plus du tout pour Jésus. Très chers auditeurs, très chères auditrices, vous êtes toujours à l'écoute de l'heure de la vérité. Comme je le disais tantôt, je suis conscient que la vérité biblique dérange. Oui, parce que la vérité biblique n'a pas pour vocation faire l'unanimité, faire plaisir aux gens, mais c'est éclairer les gens afin qu'ils deviennent libres. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et nous allons voir que, en lisant sérieusement les Saintes Écritures, je vous le faisais remarquer déjà la dernière fois, que ce soit Jésus, que ce soit les apôtres, ils n'ont pas forcément fait l'unanimité. Jésus lui-même, qui était Dieu, la vérité incarnée, tout le monde n'était pas d'accord avec lui. D'ailleurs, dans son propre pays, on l'a rejeté. Oui, les siens ne l'ont pas reçu. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont comploté pour le faire crucifier. Bien qu'il, même sans le savoir, était en train d'accomplir les desseins de Dieu, mais ils l'ont tout de même rejeté comme Messie. Et, très chers auditeurs, très chères auditrices, pendant que mon frère va chercher cette portion de Saintes Écritures, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 7, à partir du verset 40 au verset 44. Et pendant que le frère sera en train de chercher cette portion de Saintes Écritures, l'évangile de Jean, chapitre 7, à partir du verset 40 au verset 44, je vais répondre à ce message. Bonsoir, pasteur, le chiffre 666 est-il un chiffre du démon? Représente quoi réellement? Mathurin Tchouk de quartier 7. Oui, c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites autour de ce chiffre 666. Oui, beaucoup de choses ont été dites. La Bible nous dit clairement que c'est un chiffre d'homme. Et il faut avoir de l'intelligence pour comprendre. Un chiffre d'homme. Si je me tiens tout simplement à la parole de Dieu, la Bible dit un chiffre d'homme, pas forcément un chiffre de démon ou de diable. Maintenant, quand la Bible dit un chiffre d'homme, c'est pour dire que ça vient de l'homme. Et quelque chose qui vient de l'homme est toujours synonyme d'imperfection. Pour dire que quoi? L'homme peut être capable de faire beaucoup de choses, mais parce qu'il est l'homme, il est toujours imparfait. C'est pour cette raison que lorsque nous abordons les questions qui concernent la parole de Dieu, qui concerne Dieu lui-même, nous devons nous référer uniquement à sa parole. Si nous voulons nous référer aux dogmes des hommes, à leurs doctrines, à leurs théologies, nous allons nous tromper. Parce que l'homme reste l'homme et il est imparfait dans toutes ces choses. Et en ce qui concerne les choses de Dieu, nous ne pouvons pas aider Dieu. Dieu, dans sa parole, a dit, si quelqu'un ajoute quelque chose ou retranche, malheur à lui. Donc la parole de Dieu est complète. L'homme ne peut plus ajouter ni retrancher quoi que ce soit à la parole de Dieu. Il faut juste essayer de la lire et la comprendre selon l'Esprit de Dieu. Et il y a beaucoup de choses, par exemple, les organisations religieuses, les hommes ayant des bonnes intentions, les hommes s'efforcent de faire parfois des bonnes choses. Mais la vérité, c'est que ce qui vient de l'homme est imparfait. Ce n'est que ce qui vient de Dieu qui est parfait. Comme le diable aussi exploite la sagesse des hommes, maintenant, le diable peut utiliser les hommes pour faire beaucoup de choses. Je vais prendre un exemple. Lorsque Jésus-Christ va dire à ses apôtres qu'il va monter à Jérusalem, on va l'arrêter, on va se moquer de lui, on va le fouetter, on va me le crucifier, et que 3 jours après il va ressusciter, l'apôtre Pierre va le prendre de côté en lui disant, Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Mais qu'est-ce que Jésus va répondre? Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes. Donc, dans ce contexte précis, l'apôtre Pierre avait laissé que Satan influence négativement ses pensées. Et pourtant, ce que l'apôtre Pierre avait dit n'était pas forcément quelque chose de méchant. Il avait tout simplement dit au Seigneur Jésus que Dieu ne permettra pas que cela t'arrive. Ce n'était pas quelque chose de méchant. Mais le problème, c'est que la volonté de Dieu, c'était que Jésus souffre et qu'il meure. L'apôtre Pierre était loin d'imaginer cela. Mais puisqu'il ne pouvait pas comprendre si ce n'était pas l'Esprit de Dieu, il a laissé Satan maintenant utiliser ses pensées pour empêcher Jésus d'aller mourir à la croix. Voilà un exemple. Très chers, je vais laisser mon frère maintenant lire dans l'évangile de Jean, chapitre 7, à partir du verset 40 au verset 44. Oui, tu peux lire, mon frère.
Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Messie. Mais d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem où était David que le Messie doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Parole du Seigneur.
Amen.
Jusqu'à 44.
Oui, jusqu'à 44. Nous sommes dans l'évangile de Jean que vous pouvez relever et lire. Après, l'évangile de Jean, tant pour moi, chapitre 7. C'est ça, mon frère?
C'est ça, mon frère.
Oui, l'évangile de Jean, chapitre 7, à partir du verset
40.
Ouais. Avant, je vais essayer de déchiffrer ce message, si je peux déchiffrer et répondre. Je vis dans une maison avec ma grand-mère qui n'accepte pas que je parte à l'église. Elle-même ne part plus à l'église et elle est baptisée. Ma mère était morte quand j'avais 6 ans. Très chers auditeurs, pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'amples informations pour pouvoir répondre sans se tromper. Puisque je n'arrive pas, de toutes les façons, vous soulignez que vous avez des problèmes spirituels. Déjà, je vais prier pour vous. Et même après l'émission, nous pouvons continuer l'entretien. Nous pouvons rester en contact. Oui. Je m'adresse à Léolin, Steve. Oui, nous pouvons rester en contact après l'émission. Je vais prier pour vous. Donc votre cas semble plus sérieux. Et il y a également ce message à propos de la dîme que dit le verset. Je ne sais pas, c'est tout. Il n'y a pas la suite du verset. Peut-être il faut encore compléter votre préoccupation. Lisez Malachie chapitre 3, c'est un message que je viens également de recevoir qui dit, lisez Malachie chapitre 3 verset 10, que dit la parole de Dieu? Adonia Antonga. Oui, nous allons répondre vraiment à cette préoccupation de cet auditeur. Nous sommes dans Malachie, c'est vrai. Peut-être la dernière fois, lorsque j'avais partagé sur ce verset, il n'était pas à l'écoute. De toutes les façons, nous sommes là pour vous. Oui, Malachie chapitre 3, le verset 10, qui dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est vrai que ça, c'est le verset préféré de tous ceux qui enseignent sur la dîme, Malachie chapitre 3. J'ai longuement prêché sur la dîme. La dîme, c'était une loi sociale juive. Oui, c'était une loi sociale juive. Comme dans toutes les nations du monde, Israël, en tant que nation, avait des lois. Et parmi ces lois, il y avait aussi les lois sociales ou civiles. Et la dîme faisait partie de cette loi sociale ou civile. Et cette loi était divisée en 4. Il y avait 4 sortes de dîmes. Il y avait la dîme qui revenait aux Lévites qui travaillaient exclusivement dans le temple ou dans tout ce qui concernait le sanctuaire. il y avait la dîme que l'Israélite lui-même avec toute sa famille devait manger et se réjouir avec sa famille chaque année. Il y avait également la dîme qui revenait tous les 3 ans aux orphelins, aux veuves, aux étrangers. Tout cela c'est dans Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 22 jusqu'à la fin. Vous allez voir les détails de toutes ces sortes de dîmes là. Et en général, lorsqu'on parlait de dîmes, on ne parle pas de ces sortes de dîmes. Il y avait également la dîme de la dîme que les Lévites, après avoir récupéré les dîmes, devaient amener dans la maison du trésor. Et c'est cette dîme de la dîme maintenant qui était amenée non par les Israélites, mais par les Lévites dans la maison du trésor, qui devait maintenant servir à entretenir le temple lorsque le temple était encore en vogue dans l'ancienne alliance. Et je tiens en passant que lorsqu'on parlait de la maison du trésor, aujourd'hui, l'église du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus un bâtiment, ce n'est pas un temple. Le véritable temple de Dieu, c'est l'homme. Parce que dans l'Ancien Testament, le temple, c'était vraiment un bâtiment fait de pierres. Un bâtiment, vraiment dans le sens littéral. Alors que dans le Nouveau Testament, la Bible dit que Dieu n'habite plus dans les temples faits de mains d'hommes, mais dans le cœur de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, ou bien les versets 16 et 17. Donc, pour dire que nous ne devons plus avoir la même notion de certaines choses qu'il y avait dans l'Ancien Testament, aujourd'hui dans le Nouveau Testament, parce que nous sommes sous une nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il faut rester même dans le contexte de Malachie chapitre 3, c'est d'abord c'est un verset qui, si on prend ça littéralement, ça concernait beaucoup plus les Lévites, parce que ce sont eux qui devaient amener la dîme de la dîme dans la maison du trésor, après avoir récupéré la dîme. Vous pouvez lire ces références dans Néhémie chapitre 10, à partir du verset 38. Oui, Néhémie chapitre 10 à partir du verset 38. Oui, donc on utilise plus ces versets pour vous tourmenter, comme s'il n'y avait que ce seul verset dans la Bible concernant la dîme. Quand les gens lisent ces versets, où est-ce qu'ils laissent les autres versets qui parlent de la dîme? C'est ça le problème avec les fausses doctrines. On prend juste une portion de Saintes Écritures, on la sort de son contexte et on manipule les gens avec. Alors que la Bible, c'est un ensemble. Pour pouvoir sortir un enseignement, une doctrine, on va tenir compte de l'ensemble des Saintes Écritures avant de sortir une doctrine sûre. C'est ce que nous essayons de faire dans cette mission, l'heure de la vérité. J'espère que j'ai répondu à la préoccupation de cet auditeur. Oui, nous avons lu le texte de Jean tout à l'heure, Jean 7, à partir du verset 40 tout à l'heure, qui disait clairement que, à cause de Jésus, il y avait division. Nous sommes au verset 43, et il y eut donc à cause de lui division parmi les foules. Donc, la vérité biblique va toujours diviser. Il y aura les gens qui seront contre. Il y aura les gens qui seront pour. Oui. C'est pour vous dire que, si c'est la vérité biblique qui vous intéresse, n'ayez pas honte de suivre cette vérité. N'ayez pas honte de défendre cette vérité. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde ne sera jamais d'accord en ce qui concerne la vérité. Même Jésus lui-même, tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Bien au contraire, il y avait constamment division dans la foule à cause de lui. Nous allons rester dans l'évangile de Jean. Mon frère, tu peux lire cette fois-ci au chapitre 10. À partir du verset 19 au verset 21.
À partir du verset 19 au verset 21. Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles?
Oui, amen. Voilà une portion de Saintes Écritures. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 10, à partir du verset 19 au verset 21, où il est écrit, il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les Juifs. Donc, il y aura toujours division lorsqu'on va vraiment prêcher la vérité. Certaines personnes seront pour, d'autres contre. Et certains sont allés jusqu'à dire que Jésus avait même un démon. Imaginez les gens dire que Jésus, le roi des rois, le Seigneur des saints, le Saint des saints, dit qu'il avait un démon. Tout simplement parce que les gens ne voulaient pas croire en son message. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles des démoniaques. Heureusement qu'il y avait certaines personnes pour dire que ce que Jésus disait, ce n'était pas les paroles des démoniaques. Donc vous, avant de rejeter même tout ce que je prêche ici, prenez au moins la peine d'examiner dans votre propre Bible tout ce qui est dit, particulièrement le verset biblique, avant de juger et de condamner. Oui. C'est très très important. Peut-être après avoir examiné à tête reposée, Vous n'allez plus juger et condamner n'importe comment. Vous allez revoir encore votre position. Et nous allons également remarquer que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est née et s'est formée dans la division. Il n'y a pas longtemps, juste quelques jours, il y a un pasteur qui est venu me voir. Il a dit que il ne faut pas que je divise le corps de Christ, l'Église du Seigneur Jésus. Ah! Si Jésus lui-même a dit que je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, qui suis-je pour pouvoir diviser l'Église du Seigneur Jésus? Jésus a dit que même les portes du séjour de l'enfer ne peuvent pas détruire son Église. À plus forte raison, un homme ne peut pas détruire l'Église du Seigneur Jésus. C'est parce que les gens confondent les entreprises des hommes avec l'Église du Seigneur Jésus. L'Église du Seigneur Jésus ne sera jamais détruite. Parce que le fondateur et le bâtisseur, c'est Jésus lui-même. Mais ce que les hommes fondent et bâtissent seront un jour détruits. Même si ce n'est pas détruit dans ce siècle-ci. Parce qu'il n'y a que ce que Dieu a bâti lui-même qui subsistera.
Amen.
Et l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en lui. Partout dans le monde entier. Et qui sont nés de son esprit. Voilà l'Église du Seigneur Jésus. Et cette Église ne peut pas être détruite. Et il y a ses membres partout sur la surface de la terre. Et ils ne sont pas forcément dans les systèmes religieux reconnus officiellement. Et dans une localité donnée, l'Église du Seigneur Jésus, c'est quoi? Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, tout simplement.
Amen.
Partout où les gens sont assemblés au nom du Seigneur Jésus, localement parlant, voilà l'Église du Seigneur Jésus. Qui se lèvera pour détruire cette Église si elle s'assemble vraiment au nom du Seigneur Jésus et si elle est fondée sur la parole de Dieu? Personne.
Personne, personne.
Si nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 4, les quatre premiers versets, mon frère, tu peux également lire. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Il y a certaines choses que je tiens vraiment à ce que vous puissiez savoir. Particulièrement que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est née dans la division.
Actes chapitre 4, les quatre premiers versets. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand, suivant les prêtres, les commandants, les gardes du temple et les sadducéens, il était excédé parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et, comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 d'environ, par le Seigneur.
Amen. Oui, très cher bien-aimé dans le Seigneur, avant de revenir sur cette portion de Sainte Écriture, je vais répondre à ce message. Cet fidèle auditeur qui demande que chaque fois j'insiste qu'on ne doit pas baptiser les enfants à la lumière de Sainte Écriture, il voudrait davantage comprendre. C'est vrai que j'ai enseigné sur le baptême, sur cette émission, peut-être malheureusement il n'était pas à l'écoute, car cela ne tient comme il a pris la peine d'écrire ce long message. Dans l'évangile de Matthieu, déjà chapitre 3, si nous voyons, puisque nous sommes bientôt à la fin de notre émission, tu dois relever et après lire. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, nous allons voir le premier qui a commencé à baptiser, Jean-Baptiste. Nous allons déjà voir que Jésus lui-même a été baptisé à l'âge de 30 ans. On ne l'a pas baptisé lorsqu'il était bébé. Et lorsque Jésus va se baptiser, qu'est-ce qu'il va dire? Au verset 15. Jésus lui dit, il répond à Jean-Baptiste, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Donc Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans et il voulait montrer ce qui est juste. Un, lorsqu'il était déjà suffisamment grand. Et la Bible va également dire plus haut que les gens venaient confesser les péchés et se faisaient baptiser par Jean qui a commencé à baptiser, qui a baptisé même Jésus. Donc les gens confessaient les péchés. Est-ce que les bébés peuvent confesser les péchés? Parce que les gens confessaient les péchés pour montrer qu'il voulait une certaine purification, Jean étant celui qui est venu préparer le chemin du Seigneur. Et si nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre Marc 16, les versets 15 et 16.
Marc 16, les versets 15 et 16. Puis il a dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné par le Seigneur.
Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a clairement dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc la condition, d'abord, croire. Il faut d'abord croire. Celui qui croira, il faut d'abord croire. Et les bébés ne peuvent pas croire. Les bébés, Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit concernant les enfants? Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Donc tous les enfants sont déjà les enfants de Dieu. Les place est déjà dans les cieux. Jusqu'au jour où ils vont grandir et devenir grands, matures. En ce moment, ils vont décider volontairement de croire ou de ne pas croire, de se baptiser ou de ne pas se baptiser. Mais en attendant, Jésus a dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Donc ils sont d'office les enfants de Dieu. Et ce dernier verset, dans 1 Pierre chapitre 3 également, qu'il peut relever, verset 21, qui dit clairement que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et je vais également essayer de répondre à ce message. Et en attendant, mon frère, tu peux ouvrir dans Actes des Apôtres chapitre 14, les quatre premiers versets. Nous allons lire ces derniers versets avant de nous séparer.
Acte 14.
Oui. Acte 14 à partir du premier verset au verset 4.
Acte 14 à partir du premier verset au verset 4. À Iconium, de même, Paul et Barnabas entrèrent dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Mais les Juifs restaient incrédules, insistaient l'esprit des non-Juifs et provoquaient leur hostilité contre les frères. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en permettant qu'ils se fassent par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. La population de la ville se divisa. Les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté des apôtres. Parole du Seigneur.
Amen. Tout à l'heure, nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 4, les quatre premiers versets, qui nous dit clairement que, tandis que Pierre et Jean parlaient au temple, voilà Pierre et Jean qui sont en train de prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ au temple. Un temple qui est censé être pour Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux et les jetaient en prison. Voilà, on vient, on arrête les apôtres, on les met en prison. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont en train de prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Ils n'ont pas commis un crime. Tout simplement annoncer la vérité qui devait sauver les gens. Mais qu'à cela ne tienne, la Bible nous dit au verset 4, nous sommes dans Acte 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Le nombre des hommes s'éleva environ 5000. Donc, malgré même le fait qu'on les a arrêtés et qu'on les a emprisonnés, n'a empêché. Les gens croyaient à ce qu'ils disaient. Parce que c'était la vérité. Donc, si vous savez que ce que nous prêchons, c'est la vérité, croyez. Le salut est individuel. Personne ne vous sauvera. Ce n'est pas votre religion, même votre pasteur qui vous sauvera. C'est la vérité biblique qui vous sauvera. Il n'y a que la parole de Dieu qui sauve. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 14, que nous avons lu tout à l'heure, nous sommes à Icône, où Paul et Barnabas sont entrés dans la synagogue des Juifs, c'est-à-dire les lieux de prière, où ils venaient chaque jour prier Dieu. Mais ce qui est curieux, c'est que lorsque ils vont prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, la Bible nous dit que beaucoup seront mécontents. Oui, ceux qui ne vont pas croire seront mécontents. Le verset 4 va nous dire que quoi? La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, et les autres pour les apôtres. Vous comprenez, quand je dis que l'église est née et s'est formée dans la division, ce ne sont pas des paroles jetées en l'air. Il faut connaître même l'histoire de l'église. Il y aura toujours cela. Beaucoup de gens seront pour la vérité. Et ceux qui seront pour la vérité vont se ranger du côté de la vérité. Et ceux qui seront pour les religions, ou pour les dogmes, ou pour les traditions, vont garder les dogmes et les traditions. Et forcément, il y aura division. Si tout le monde était prêt à accepter la vérité, là, il n'y aura pas de division. Si tout le monde était prêt à rester dans les ténèbres et l'ignorance, là non plus, il n'y aura pas de division. Mais du moment où chacun veut rester dans un camp précis, il y aura forcément division. C'est à vous de choisir maintenant quel est tout simplement votre camp. Chacun rendra compte pour lui-même. J'essaie de déchiffrer ces derniers messages, si je peux parvenir et répondre avant de finir. Elle avait perdu la foi depuis le jour de la mort de ma mère. La semaine passée, le marabout était venu lui dire qu'on va me tuer dans la secte. Et j'ai insisté qu'on parte voir le prêtre. Elle a refusé et m'a amené chez le marabout. Aidez-moi. Très cher auditeur, le marabout est un homme comme toi. Un marabout ne peut sauver ni aider personne. Et quand bien même ils peuvent arriver à faire quelque chose, ce n'est qu'avec la puissance de Satan qu'il travaille. La seule chose que tu dois faire, c'est d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Ce que j'ai dit est valable pour la majorité, ceux qui nous écoutent ou qui se trouvent. La Bible nous dit dans 1 Jean que celui qui est dans le croyant, qui est né de Dieu, est plus fort que tout ce qu'il y a dans le monde. Pendant que je suis en train de me préparer à clôturer cette mission avec vous, je vais demander à mon frère de chercher ce verset de 1 Jean chapitre 4. Parce que c'est très très important, qui dit clairement que celui qui est dans le croyant est plus fort que celui qui est dans le monde. Les gens s'embrouillent et ont peur tout simplement parce qu'ils n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ en eux. Quand vous avez déjà le Seigneur Jésus-Christ en vous, la Bible nous dit clairement que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc ouvrez vos cœurs, invitez le Seigneur Jésus-Christ à venir habiter dans votre cœur. Et dites que vous voulez qu'il soit votre sauveur et surtout votre Seigneur. Seigneur veut dire le maître de votre vie. Si le Seigneur Jésus-Christ est désormais le maître de votre vie, vous n'avez plus rien à craindre. Aucune secte ne peut vous tuer. Aucune sorcellerie ne peut vous prendre. Lorsque vous êtes déjà vraiment en Christ, il ne s'agit pas d'aller dans une religion, non. Il ne s'agit pas de dire je suis dans telle religion. Il s'agit d'accepter vraiment Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et en ce moment, la Bible nous dit que la divination ne pourra rien contre vous. Même l'enchantement ne pourra rien contre vous. Selon Nombre, chapitre 23. Oui, si mon frère a vu, tu as vu ce verset? Oui. 1 Jean, chapitre 4. Nous sommes presque à la fin de notre émission de ce jour, 13h. Compte tenu du temps, nous serons obligés de nous retrouver prochainement par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous avez été très très nombreux à nous écouter et surtout à envoyer même vos messages. D'ailleurs, vous pouvez continuer également à envoyer vos messages même après cette émission. Oui, parce que nous sommes là pour essayer de partager tout simplement la vérité du Seigneur qui peut vous aider d'une manière ou de l'autre. Oui, après vous pouvez continuer même à appeler si vous le voulez. Oui, les lignes vont rester ouvertes. Et je souhaite tout simplement que la bonne main du Seigneur soit sur vous et que par sa grâce, nous puissions nous retrouver prochainement. Et surtout, méditez profondément sur tout ce que vous avez écoutez et n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Que la gloire, les honneurs, les actions de grâce, le règne et la majesté reviennent à celui-là seul qui est digne de les recevoir. Non seulement ici-bas, même dans les siècles, dans les cieux, maintenant et pour des siècles et des siècles. Et comme promis ce dernier verset, de 1 Jean chapitre 4, le verset 4 qui dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen.
Amen.
1 Jean chapitre 4, le verset 4.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61
93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros de 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.